tout de suite donc sur les docks et le programme de votre semaine, Irène.
Eh bien, cette semaine, Hervé, nous irons jeudi dans la vallée d'Aoste, où en mars 1956, Sergio Liberovici enregistra à l'hôtel Grivola une dame de cogne, Henriette Guicharda, qu'on surnomme dans le village la Pierrotta. Cette voix a fasciné Péroline Barbet, qui est revenue, 60 ans plus tard, interroger la résonance de ce chant en lien avec l'exorcisme. Mercredi, Olivier Sieschelski sera à Courba, dans un centre de santé où sont pris en charge des gardiens de la paix en burn-out. Mardi, sur les docks se mêlera au grain à moudre pour un 5 à 7 entièrement consacré à la question « Faut-il confier la démocratie au peuple ?» avec le travail documentaire d'Arnaud Contreras dès les premières heures de la nuit debout.
Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, Julia Roberts, Michel Sardou.
Oui Hervé, je est définitivement un autre pour ces personnes qui sont des sosies, souvent depuis des années. Comme le dit Alain Lefkovitch, ils ont la gueule de l'autre et se confient.
Ah bah on va en faire une photo avec moi, hein, pas de problème, hein, je te le promets.
Je t'attends.
Bonjour
ma série, ça va?
Oui.
La gueule de l'autre, par Alain Lefkovitch et Vincent Deck.
Je m'appelle Denis Lemaine. Mon métier c'est sosie de Johnny Hallyday depuis 31 ans. Je dis clair, fort et clair, ma seule politique et ma seule religion, c'est Johnny Hallyday. C'est mon amour, c'est mon grand amour. Et pour moi, Johnny, c'est un modèle d'homme, c'est une grande partie de ma vie. Mon rêve, c'était de pouvoir devenir ami avec Johnny Hallyday. Bon, pour l'instant, ça n'en est resté que quelques rencontres que j'ai eues deux fois par rapport à son chauffeur qui s'appelait Joe Rodriguez. Et Joe, je dois beaucoup à Joe parce que Joe, c'est devenu un ami et même Joe venait des fois avec la moto de Johnny, les motos de Johnny. C'était extraordinaire, quoi, parce que moi, je pouvais toucher la moto. Je l'embrassais, j'embrassais le siège de la moto, parce que je me dis, putain, Johnny Hallyday, il a posé son cul dessus, quoi. C'est extraordinaire. Pour moi, c'était extraordinaire. Voilà. Bon, je crois qu'il m'appelle. Il faut que j'y aille.
Longtemps considérés comme des bêtes de foire, les sosies sont désormais convoitées. Les désuets Clo-Clo et Johnny ne sont plus les seuls sur le marché. À chaque star, son sosie. Certains sont devenus aussi célèbres que ceux qu'ils copient. Ils font la une des journaux People et des gazettes locales. Ils se produisent partout où la star, elle, n'ira jamais, mobilisant ainsi un public de fans insoupçonnés. Un véritable business où la concurrence fait rage et qui exige du double, un travail long et fastidieux, un travail sur la voix, sur la gestuelle et la posture du corps. Mais le phénomène va plus loin. François Brunel, dans un jeu photographique, recherche des faux jumeaux pour mieux en dévoiler l'illusion. Quant à Raphaël Endhoven, dans une conversation avec le sosie de Julia Roberts, nous explique la difficulté d'être le sosie de soi-même. En 1915, à San Francisco, fut organisé un concours de sosie de Charlot, la star du cinéma muet. Charlie Chaplin, ni vu ni connu, y participa. Résultat incongru, il termina à la 27e place. Les sosies, un monde double qui peut aller jusqu'au délire. Le délire d'illusion des sosies. Un syndrome mis à jour par le neuropsychiatre Joseph Capgras en 1923, quand les proches sont perçus comme sosies d'eux-mêmes. Alors comment on doit vous présenter ?
Alors moi je m'appelle Michel, j'ai 40 ans.
Et alors sosie de...
Alors, sosie de Julia Roberts. J'ai toujours l'impression de me vanter, c'est terrible. Parce que, voilà, pour moi, c'est fun, c'est sympa. Mais bon, voilà, de me présenter comme ça, c'est difficile. Mais là, c'est le sujet. Donc,
comment cette aventure a commencé?
Alors, mon premier casting, ça a été à la Foire du Trône. Il y avait l'équipe de Ruquier, c'était super sympa. Je me suis retrouvée du jour au lendemain en robe de soirée, avec 7 gardes du corps pour rentrer chez moi. Et puis le lendemain, j'étais invitée à l'émission. On a tout essayé. J'avais jamais vu l'émission.
Mais alors, comment on décide de devenir sosie?
Alors moi, j'ai toujours voulu travailler dans le spectacle. Alors, à la base, je voulais être chanteuse. Et donc, je me suis retrouvée sosie. C'était une chance de pouvoir faire du spectacle, de rentrer dans ce milieu. Puis je suis entrée innocemment. Hein, c'est la première fois que je me suis retrouvée à Walt Disney en prestation. J'étais avec la doublure de James Bond. Et je lui dis, mais comment on fait là? C'est quoi être sosie? Et en fait, il me dit, mais sosie, c'est, bah, il faut regarder les DVD, puis il faut imiter, il faut regarder la gestuelle. Et j'ai jamais pu le faire parce que je me suis dit, si je commence à faire ça, je vais me perdre là. Donc, puis j'aurais peur que ça déteigne sur ma personnalité. Puis en fait, finalement, je me suis aperçue qu'en fait, elle est aussi nerveuse que moi. Je pense qu'elle est timide, peut-être, je sais pas. Et elle est tout le temps nerveuse, tout le temps avec des gestes assez. le grand sourire, enfin, la gestuelle assez saccadée, comme moi. Et alors, bizarrement, il y a des moments avant de rentrer sur scène. Je me suis dit, mais je ressemble pas à Julia Roberts, il faut que je ressemble. Donc je joue beaucoup sur le sourire. Moi ça fait 12 ans que je fais ça, donc peut-être que je dois lui ressembler, certainement.
Vous faisiez quoi avant?
Alors avant, je fais toujours, j'ai pas arrêté. Je suis coiffeuse en freelance. Je n'ai jamais arrêté mon métier parce que pour moi c'est un complément, c'est quelque chose de fun, c'est sympa, mais bon voilà, en faire un métier, non. C'est une belle aventure. J'ai vécu la célébrité. Je me rappelle, je faisais mes courses à Carrefour et j'ai une fille qui a pris carrément un appareil jetable, qui l'a ouvert dans le magasin, qui m'a pris en photo. J'avais des gens qui venaient chez moi, qui avaient reconnu le portail dans le reportage qu'il y avait eu sur TF1 et qui étaient venus chez moi. Puis à cette période-là, je divorçais, alors j'étais pas au meilleur de ma forme. Et là, j'avoue, j'ai failli tout arrêter parce que je me suis dit non, j'ai pas demandé ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas être fragile. Parce que ça demande d'être une personne, ça demande une maturité aussi, hein, quand même, hein, je pense, pour faire ça. J'entendais des commentaires derrière moi disant, oh, de toute façon, elle est refaite de partout. Et puis les hommes, ça, de toute façon, elle doit avoir 10 000 mecs à ses pieds. Enfin, tout ça, il y a un transfert d'amour et de haine. Je me rappelle toujours, j'avais inauguré un jeu au parc d'attraction, au Futuroscope, et il y avait une vraie star. Et je me rappelle, il y en avait un qui n'arrêtait pas de me prendre en photo, et puis la vraie star était tranquille. Alors je dis, écoute, moi je suis la fausse, je suis pas Julia Roberts. Par contre, il y a la vraie star là-bas. Et il m'a dit, oui, mais ce n'est pas Julia Roberts. Toi, tu es la Julia Roberts française. Alors bon, c'est fort, mais bon, c'est pas la réalité, hein, parce que je serais la Julia Roberts française, je pourrais, comme je suis sollicitée pour des contrats, on m'a proposé 10 fois d'être égérie d'une marque de vêtements ou cosmétiques. Mais là, je peux pas. Hein. Donc, je perds beaucoup d'argent, là. Hein.
Comment ça, vous pouvez pas?
Parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils se renseignent à leur avocat, en fait, ils disent non, c'est pas possible. On peut pas jouer sur la ressemblance avec Julia Roberts pour être égérie d'une marque.
Vous l'avez rencontrée, j'imagine, Julia Roberts?
Non. J'ai failli la rencontrer sur le tournage d'un film. La réalisatrice a abandonné le projet. Donc, voilà.
Il y a des moments où on risque justement de confondre Michel et Julia?
Non, parce que dans la vie de tous les jours, je ne fais rien pour lui ressembler. Et puis je vous dis, je ne suis pas habillée en robe de soirée ou en super truc super classe. Je ne suis pas dans le personnage. Moi, je vous dis, c'est Vanessa Paradis que je trouve super belle ou Brigitte Bardot. Enfin, quand elle était plus jeune, bien sûr. Bon, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans, j'avais des posters de Vanessa Paradis dans ma chambre et je prenais un peu ses positions. Là. Puis je suis toujours Vanessa Paradis, je l'aime bien, je l'adore.
Et pas avec Julia Roberts?
Non, du tout. Non. Non, parce que Julia Roberts, c'est une femme, c'est une vraie femme. Vanessa Paradis, c'est une femme enfant. Et moi, j'aurais bien voulu être une femme enfant. Ça m'aurait beaucoup plu.
Mais j'imagine qu'on vous reconnaît parfois dans la rue. Vous dites, ah non, attention, je ne suis pas la vraie, je suis la fausse, ou vous laissez le doute planer?
Non, j'en parle pas. Il y a juste à mes clientes voilà, que je coiffe, à qui j'en parle. Et en fait, je leur raconte mes petites histoires. Je sais que ça apporte une dimension. Parce que alors, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez à Cannes, vous allez où? Voilà, elles suivent. C'est une aventure, c'est un roman photo finalement, j'apporte du rêve. Donc c'est pas mal.
Et alors demain, vous faites quoi?
Alors demain, je vais travailler, je vais faire mon travail de coiffeuse, donc je vais travailler en conciergerie d'entreprise, et après, j'ai le taxi qui vient me chercher, et là, je vais passer à l'autre dimension, c'est-à-dire que je vais jouer le personnage de Julia Roberts sur un plateau télé.
Jamais, en dehors des prestations, vous prenez à être qui vous n'êtes pas?
Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Puis là, en fait, j'ai surtout l'idée, c'est de monter sur scène, j'aimerais bien chanter en ce moment-là. Parce que l'aspect glamour, physique, tout ça, moi, je l'ai eu dans ma vie. Je connais tout par cœur. Mon meilleur profil, je le connais. Il n'y a pas de problème. Alors, un peu, j'ai besoin de nourriture intellectuelle. Et j'aime étudier, j'aime... je suis un peu comme vous, comme Raphaël. je cherche.
Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous avez envie de discuter avec un philosophe?
J'aimerais bien savoir, voilà, ce que pense un philosophe de ça, parce que bon, c'est vrai qu'on est tout de suite catalogué de schizophrène, de gens complètement tarés, complètement malades, tout ça. Donc ça m'intéresserait. Donc Raphaël, qu'en pensez-vous?
Mais pourquoi vous aimeriez avoir l'avis d'un sociologue ou d'un philosophe et pas d'un psychiatre ou d'un neuropsychiatre?
J'adore. Non, parce que il fut un temps, j'avais fait une psychanalyse, mais je suis pas allée voir parce que j'étais tarée, hein, je devenais tarée. Hein. C'était un moment, j'ai fait une psychanalyse qui a duré 10 ans, et donc il y a pas de problème avec ça en fait, hein, du tout. Donc j'ai jamais eu de médicament, donc ça va.
Parce qu'il y a un neuropsychiatre qui s'appelle Joseph Capgras,
oui,
qui en 1923 va identifier un syndrome psychiatrique qu'il va appeler le syndrome délirant du sosie.
C'est vrai?
C'est-à-dire que vous avez le sentiment de voir votre meilleur ami, mais vous avez, vous, le sentiment qu'il a été remplacé par quelqu'un qui vous veut du mal, mais qui a les traits de cet ami.
Ah non, mais là, c'est délirant, là. On n'en est pas là, nous n'en sommes pas là. Non, ça va quand même, heureusement.
Jean-Pierre Lyautey, nous sommes installés ici confortablement dans ce lieu assez cosy qui est la bibliothèque de l'hôpital Sainte-Anne. Hôpital Sainte-Anne où en 1923, Joseph Capgras va identifier le syndrome.
Le syndrome d'illusion des sosies. Il va être quelques années plus tard appelé par un certain Lévi Valenzi, qui était aussi un médecin de Sainte-Anne, mort en déportation, syndrome de Capgras. Dans la description Princeps, c'est en quelque sorte la transposition des propos de la malade. Cette malade, c'est une grande délirante. Elle s'appelle Madame de Rio Branco, elle se fait appeler comme ça. C'est un très très riche délire de filiation, de fortune. Et ça, c'est le mérite de Capgras. Il est pas mince. Il a isolé quand même, dans ce très riche délire, ce que la malade disait. Et la malade, elle multipliait depuis quelques années des impressions de sosie. C'est-à-dire qu'elle considérait que certaines de personnes qui étaient en face d'elle étaient les sosies des personnes qui existaient. Autrement dit, elle voyait les traits de la personne, pour ça qu'elle les appelait des sosies, elle utilisait le terme de sosie, mais elle niait l'identité de la personne. Alors voilà la définition du syndrome de Capgras. Comme le disait Capgras, c'est une agnosie d'identification. Elle n'arrivait pas à arriver à l'identité de la personne. Mais par contre, elle retrouvait la ressemblance. C'est quand même tout à fait surprenant la première fois qu'on se trouve en présence d'un malade qui atteint ce syndrome, qui en présence d'un proche, c'est nécessairement un proche, va dire non, ce n'est pas lui, c'est soit le sosie, s'il utilise le terme, soit le double, soit le jumeau, par exemple. Autrement dit, qui va bien accéder à la notion de ressemblance, une espèce de identification de la forme, mais pas à ce qui fait l'identité, la personnalité du proche. Et ce proche, quand on l'interroge, où est-il? Il n'en parle pas. Il a disparu. Il n'en parle pas. Donc, on voit là que ce n'est pas une fausse reconnaissance, qui est un phénomène extrêmement banal, c'est une méconnaissance. La personne qui atteint du syndrome va déclarer, par exemple, en présence de son mari, « Que faites-vous, monsieur ? Bernard, le mari, quand il viendra, il va vous chasser. » Voilà. Et tout ça pour dire que, très souvent, la personne qui est atteinte du syndrome, elle développe vis-à-vis du sosie une attitude agressive, ou du moins hostile, parce qu'il y a une substitution. C'est une manœuvre qui peut être élaborée, liée à des persécuteurs qui veulent ainsi lui nuire, mais pas nécessairement. Donc voilà en quelque sorte comment Capgras, dans cette publication Princeps, a défini le syndrome avec deux éléments, donc une méconnaissance de l'identité réelle et la persistance quand même de la ressemblance.
Alors il y a un artiste qui s'est mis en tête, parce qu'on lui avait dit lorsqu'il était plus jeune qu'il ressemblait à Mr Bean, de retrouver dans le monde des doubles. Alors il a passé une annonce sur un réseau social et il a eu en quelques heures des milliers et des milliers de réponses. Il s'est rendu compte qu'il y avait un engouement interplanétaire pour rechercher son double. Comment vous expliquez qu'on ait besoin d'avoir, de vivre ce trouble, de se retrouver un jour devant son double ?
Je ne sais pas si, personnellement, j'en suis pas atteint, mais un jour j'ai été fasciné en ouvrant la télévision par l'impression de me voir à la télévision. C'était un homme politique, Jacques Barrot. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais il ne me ressemble pas, mais pourtant, ça m'a frappé. Et après, j'ai pensé que c'était peut-être autre chose qu'une ressemblance physique qui m'avait attiré vers lui. Sa voix, peut-être, ou peut-être les idées qu'il défendait. En tout cas, ça m'avait frappé et un petit peu ahuri. Mais je n'irai pas jusqu'à rechercher des doubles de moi-même. Mais je dis bien, il y a un dicton qui dit qu'on a 7 doubles de soi-même.
Alors ce dicton, il vient d'où ?
J'en sais rien. En tout cas, il y a eu au 19e siècle sûrement un grand engouement pour ces phénomènes de dédoublement, de multiplication des doubles ou de création de personnages, par exemple Rocambole. Enfin, toute cette période-là, il y a eu cet intérêt pour les doubles. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'est sortie cette idée qu'on a tous des doubles et même 7 doubles.
Alors François Brunel, vous êtes à Montréal et vous êtes photographe et en 1999, vous entamez un travail qui s'intitule « Je ne suis pas un sosie ». Comment toute cette aventure a commencé ?
Eh bien, c'est une histoire un peu longue, mais depuis que je suis jeune, j'ai toujours vu des ressemblances chez les gens que je rencontrais, soit dans la rue ou au travail. Alors souvent, je disais « Ah mon Dieu, regarde cette personne, elle ressemble à ma cousine ou mon neveu, ou elle ressemble à quelqu'un avec qui je travaille. » Enfin, j'en vois encore tous les jours. Malheureusement, c'est une obsession. Et un jour, j'ai vu à la télévision quelqu'un qui me ressemblait énormément et qui avait l'air ridicule. Et curieusement, je me suis reconnu dans cette personne ridicule. Et j'étais tout content que personne d'autre que moi était en train de regarder la télé. Et à la fin de l'émission, j'ai vu le nom fatidique, Mr. Bean. Alors bref, toujours est-il que ces deux choses combinées ont fait que j'ai eu l'idée de faire un projet où j'allais trouver des sosies le plus parfait possible et j'allais les photographier, les deux sosies ensemble, qui, à mon idée, à ce moment-là, allaient se voir pour la première fois, parce que moi, j'allais les trouver. Ils allaient être sous un état de choc. C'était un fantasme. Alors, j'ai pensé d'aller voir les médias, ce que j'ai fait. Je suis allé voir les médias qui, au début, étaient très, très peu enclins à collaborer avec moi, parce que mon projet n'est pas à propos de célébrités, mais plus à propos de gens qui se ressemblent. Pourquoi deux personnes se ressemblent ? C'est ça la fascination. Alors bref, les médias ont fini par me donner un coup de pouce. Et bon, ils ont parlé de mon projet. Bon, François Brunel cherche des sosies. Et là, les gens ont commencé à m'écrire sur Internet, et ce qui m'a permis de me promener à gauche, à droite, un peu dans plusieurs pays. Mais c'est troublant quand même de voir la ressemblance parfois. L'important, c'est qu'il y a une confusion, c'est-à-dire que vous marchez dans la rue, par exemple, et quelqu'un vous dit « Salut Georges, comment ça va ? Et la fin de semaine, et le week-end, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, vous dites « Mais je ne m'appelle pas Georges. » Et l'autre dit « Ah, sacré farceur, va et tout. » Et la personne va dire à la fin « Oh, ben pardon, je m'excuse, je croyais que vous étiez Georges. Et mon Dieu, je suis désolé. » Mais si on veut réunir avec Georges et on vous met côte à côte, on va voir qu'il y a quand même des bonnes différences. Mais il y a eu une confusion. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la manière d'être, en fait, qui fait qu'on ressemble.
Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement pour rencontrer quelqu'un qui aurait la même apparence que soi, a priori ?
Je n'aurais pas de réponse ferme à cette question, mais Je peux vous dire que j'ai reçu plusieurs emails de Chinois. On sait qu'en Chine, ils ont la politique d'un seul enfant par famille. Alors, j'ai reçu plusieurs lettres. Et une jeune femme en particulier m'avait envoyé sa photo. Et elle me dit textuellement, « S'il vous plaît, Monsieur Brunel, trouvez mon sosie afin que je me sente moins seule dans le monde. » Beaucoup de gens se sentent seuls peut-être et aimeraient trouver quelqu'un qui ressemble à les personnes qu'ils voient dans le miroir peut-être. C'est dans l'espoir de pouvoir se regarder peut-être, parce qu'on a toujours une idée mentale de qui on est et les gens ont une autre idée de qui on est. Alors si on se voyait, mettons, à l'extérieur de nous-mêmes, peut-être qu'on pourrait mieux se voir. Enfin, quand on va acheter des vêtements, souvent les miroirs sont en coin et on se voit un peu comme un étranger. On met la main vers la droite et la main va vers la gauche. Là, c'est des miroirs en coin. Et on a une occasion de se voir un peu comme les autres nous voient parce qu'on ne peut pas prévoir nos gestes. C'est sans doute le désir de savoir à quoi on ressemble finalement, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que les autres perçoivent de nous.
Alors, vous dites, vous appelez votre projet « Je ne suis pas un sosie ». Quelle différence vous faites entre sosie, double
C'est la même chose, ces mots, ce sont des synonymes. Et dans la langue allemande, le mot « doppelganger », qui est utilisé beaucoup en anglais, surtout en Angleterre, et pour décrire cette personne qui nous ressemble, mais qui n'est pas nous. Et dans la culture allemande, le doppelganger est une personne qui est exactement comme vous. Et si jamais vous vous rencontrez et vous vous voyez, vous allez mourir tous les deux.
Elisabeth Berst, vous avez participé au travail de François Brunel, entamé en 1999, intitulé « Je ne suis pas un sosie ». Comment est-ce que tout ça a commencé ?
Un jour que j'étais à mon travail, l'une de mes amies me téléphone en me disant « Mais dis donc, je ne savais pas que tu arrondissais tes fins de mois en faisant des publicités, tu aurais pu me le dire. » Enfin bon. Donc moi, je me montre évidemment très surprise. Je lui dis que non, je ne vois pas du tout de quoi elle veut parler. Donc assez intriguée, je profite de ma pause pour aller acheter le dit magazine. Et là, j'ouvre une page et j'avais l'impression vraiment de me voir, quoi. Donc, bon, je passe à autre chose. Et puis, deux ou trois ans après, en fait, un autre de mes collègues qui faisait de la photo en amateur revient du laboratoire où il est allé chercher ses photos en me disant j'ai vu la photo d'une jeune femme, qu'est-ce qu'elle te ressemble. Bon. Je me dis que c'était certainement la même personne, ma sosie entre guillemets. Donc, c'est par le labo photo que je puis la voir. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'étais très, très impatiente parce que ça réveille aussi un peu le fantasme de la jumelle. De voir aussi s'il y avait des points communs, en fait, au-delà de la ressemblance physique. Est-ce qu'on se ressemblait aussi, je ne sais pas, de tempérament, dans les goûts qu'on aurait pu partager On se voit jamais vraiment en 3D, donc là, effectivement, avoir en face de soi. Non, ça, c'est vrai que c'était drôle quand même, quand on a pris un café ensemble. C'était assez rigolo, ouais, de l'avoir. En tout cas, bon, je pourrais dire que oui, j'aurais rencontré une presque sosie dans ma vie, et c'était chouette.
En sortant la photo, là, vous le voyez sur le portrait, vous voyez le travail de François et comment il nous a mis en scène. Deux femmes qui se ressemblent, qui ne se connaissaient pas et en fait qui sont proches. Bizarre.
Alors finalement, est-ce que ce travail de François Brunel ne pose pas la question du regard qu'on a sur soi ou du regard qu'on pense que les autres ont sur soi ?
Je pense que le point de butée, c'est est-ce que je suis unique ou pas ? Donc on est confronté à une ressemblance. On a un peu l'impression de se voir sur le cliché aussi. Et donc, ces traits qui peuvent... les traits d'Elisa qui peuvent me déplaire, finalement, me correspondent aussi. Donc, me permettent d'avoir une image peut-être plus réaliste que je n'ai. Donc, voilà, c'est un peu un jeu de j'aime, j'aime pas, des goûts. Non, c'est pas moi. Oui, c'est un petit peu moi. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. C'est comme trouver une sœur. Oui, je me souviens qu'on était émus, on disait « Ah, c'est comme trouver une sœur de son âge. » C'est à la fois chaud et à la fois déstabilisant, je sais pas.
On est dans le domaine du sosie ou pas ?
Non, on ne célèbre pas le sosie, on célèbre le « Je ne suis pas un sosie ». Donc c'est ce que raconte François. Alors, je ne suis pas celui qui me ressemble, je reste unique. Sinon, il aura peut-être appelé ça « Je suis un monstre ». Enfin, j'ai trouvé mon sosie. Ou... Est-ce qu'il y a des ADN, des ressemblances qui existent? Comment ça se fait qu'il y ait des traits aussi communs entre deux personnes, sexes opposés, dans des pays opposés? Comment se fait-il aussi que les gens soient fascinés par trouver des sosies? On se le dit souvent, c'est dingue, t'es le sosie d'eux. Donc si tout le monde se prêtait à ce jeu, ça serait une carte mondiale incroyable.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche et mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Alors dites-moi, je dois vous appeler comment, Gabriel Mailly ou Jacques Dutronc?
Avant c'était Gabriel Mailly, mais sur les affiches j'apparais en tant que Jacques Mailly. On a préconisé comme quoi c'était mieux de s'appeler Jacques Mailly. Et j'ai eu la chance, bien sûr, de connaître Jacques Dutronc, de l'approcher. Ça a été une expérience merveilleuse parce que moi, je suis un artiste à petite échelle, quoi. Si on approche son idole, on est comme un enfant, quoi, comme un gosse qui est devant jouer, devant d'admirer les belles choses. Mais... je ne suis pas le gars qui, le matin, en me levant, c'est moi que je vis dans le personnage. Non, c'est avant tout, je suis Gabriel. Gabriel, quoi, voilà. Donc,
Vous avez les mêmes lunettes, vous avez les mêmes coupes de cheveux, vous êtes habillé en noir, vous ressemblez effectivement à Jacques Dutronc. C'est pas pesant, c'est pas...
Ah oui, j'admets, c'est pesant, c'est stressant parce que j'avais l'impression de voler la vie de Jacques. Et en fait, moi, quelque part, m'effacer, quoi. Voilà, donc, je ne suis pas, en fait, un profiteur. Alors, chose que je ne savais pas, j'ai appris dernièrement que Jacques, il a été opéré de la hanche. Moi aussi, j'ai été opéré de la hanche. J'entends moins bien d'une oreille, lui aussi. C'est comme ça. Chose que je ne vous ai pas dite aussi, mon père, qui n'est plus de ce monde, avait donc un peu de ressemblance avec le père Dutronc. Est-ce que dans les gènes, il y a eu quelque chose qu'on ne sait pas, quoi? Mais non, ben, je n'irai pas jusque-là, non. Non, je ne pense pas, mais bon.
Merci. Là, il y a une batterie de photographes qui viennent... voir.
C'est possible.
La première fois que vous voyez Jacques Dutronc?
De près, oui. À la télé, je le vois souvent.
Merci. Pour ma femme, elle va être la plus heureuse.
Alors vous aussi, vous voulez une photo?
Allez.
On peut plus le dire, monsieur.
Hein?
Je suis un ami de Jacques.
Ah.
Et je suis donc le représentant de Jacques.
Ah, d'accord.
Voilà.
Mais vous pouvez... Vous êtes Jacques ou pas Jacques?
Ah non, je suis son clone, quoi.
Ah.
Son vrai clone.
Ah, d'accord, ouais. Ok.
D'un coup, on dirait que ça vous fait quelque chose de merde. C'est... Non.
J'étais bluffé.
Quasi un milione di novità.
Alors dans le syndrome de Capgras, c'est le patient qui voit dans l'autre un sosie. Que dire de ces gens qui aujourd'hui sont des sosies de personnalités connues, d'artistes, d'hommes politiques?
Ça c'est un autre phénomène. Ça c'est effectivement, je dirais tout à fait intéressant qu'il y a des gens comme ça qui cherchent à rassembler à quelqu'un de connu. Cela dit, ça permet... aussi d'introduire le fait qu'après le succès du syndrome de Capgras, des psychiatres ont décrit d'autres phénomènes qui pouvaient ressembler à ça, qui n'étaient plus cette fois des méconnaissances, mais des formes de fausses reconnaissances. Et en particulier, on a décrit, en 1927, le syndrome d'illusion de Frigoli. L'illusion de Frigoli, c'était une malade qui pensait que ses persécuteurs prenait diverses apparences. À la façon dont Frigoli, c'était un transformiste célèbre, pouvait se déguiser. Et donc, cette malade désignait les différents persécuteurs qui venaient lui nuire par ce terme, parce qu'elle pensait qu'ils avaient pris des apparences différentes pour se cacher. Donc, on a décrit le syndrome de Frigoli, et puis après, on a décrit, alors là, c'est beaucoup plus tardif, Georges Christodoulou a décrit le syndrome du double subjectif. C'est la conviction, parce que chaque fois, il s'agit bien d'un délire, hein, c'est la conviction qu'ont certains malades qu'une personne s'est débrouillée pour lui ressembler exactement. Donc, le malade affirme voir en face de lui son double et est conscient à ce moment-là qu'il y a certainement une manœuvre de quelqu'un qui cherche comme ça à lui nuire.
Martine, vous nous avez accueillis ici chez Belinda Productions, pas très loin de Nice. Et en arrivant, vous m'avez demandé ce que je pensais du monde des sosies. C'est quoi le monde des sosies, Martine ?
Alors, le monde des sosies, c'est un monde déjà professionnel, qui sont donc des intermittents du spectacle. Ce sont des artistes aussi qui doivent savoir chanter, avoir une certaine aisance sur scène. Et durant quelques instants, on voit les gens participer, les mains en l'air, en train de chanter Alexandra, Alexandra, et on a l'impression pendant un moment que Claude François n'est pas décédé, qu'il est là en face de nous sur scène. Voilà, c'est vraiment un vrai travail. Et c'est dommage qu'en France, justement, il y ait un peu des sosies un peu des pâles copies, des gens qui, malheureusement, en France, donnent parfois une mauvaise image des sosies. Souvent, en télévision, on préfère faire venir des personnes qui, justement, sont plus fans qu'autre chose. Et donc, on met toujours en avant ces personnes-là. Et donc, du coup, les gens sont un peu moqueurs parce que, voilà, ils sont pas forcément ressemblants ou sinon, ils ont des problèmes un peu parfois psychologiques quand même. Vous prenez Bastien Rémy, quand il arrive sur scène, il est clo-clo, mais après, dans la vie, voilà, il s'appelle Bastien. Et voilà, ils ont des vies totalement normales, entre guillemets.
C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai attrait pour ce secteur artistique, en tout cas pour ce segment.
Oui, il y a un vrai attrait, absolument. On a beaucoup de demandes donc sur les artistes sosies, sur les artistes sosies également cinéma, soirée Festival de Cannes, etc. Donc on fait des photocalls, des arrivées style Festival de Cannes avec tapis rouge. Et après, depuis quelques années, on a également beaucoup de demandes sur les tributes. Alors, les tributes, c'est venu en fait du Royaume-Uni avec un premier groupe qui s'appelle Killer Queen, qui représente en fait Queen. Et ça a lancé une certaine mode. Donc maintenant, on a beaucoup de demandes aussi dans les tributes ABBA, Beatles, etc. C'est pas vraiment des sosies, mais c'est du live. Vous avez l'orchestre derrière.
Quels sont les artistes qui fonctionnent le mieux ? C'est Clo-Clo ou c'est Julia Roberts ?
Julia Roberts a beaucoup, beaucoup de succès. On a également le sosie de Richard Gere que l'on produit souvent avec elle. On a beaucoup de demandes sur James Bond. Donc nous, on travaille avec un artiste sosie qui est anglais. Donc ça peut être une arrivée de l'artiste en hélicoptère, ça peut être des faux combats. Enfin voilà, on essaie vraiment d'amener un plus.
Alors qui aujourd'hui a envie d'avoir un sosie à table ou sur scène ?
Alors bon, on travaille évidemment pour des villes, donc pour des mairies, pour des comités des fêtes, pour des comités d'entreprise. On travaille aussi pour des soirées privées, des grosses boîtes aussi hein, pour qui on travaille. Dans l'ensemble, ce sont nos clients majoritaires.
Alors à Marseille, on était avec Gabriel Mailly quand soudain des gens ont voulu se faire prendre en photo avec lui. On dit la vérité ou on laisse planer le doute au public ?
Non, on dit toujours la vérité. Lorsque l'on organise des concerts, généralement, on met toujours, voilà, par exemple, Serge Cardus, sosie de Michel Sardou. Voilà, on annonce toujours, bien évidemment. Par contre, nous, ça nous est arrivé sur des soirées privées, en partant, par exemple, sur des thèmes sur le cinéma. Tout le monde est mélangé, c'est-à-dire les artistes, le public, etc. Et là, on essaie de leur faire croire pendant un moment qu'effectivement, ce sont les vrais. Mais généralement, on est là pour dire la vérité également.
Alors Michel, vous avez eu le désir de rencontrer Raphaël Enthoven. Nous sommes aujourd'hui chez lui, donc je vous laisse vous présenter et dialoguer avec Raphaël.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Michel.
Alors, que pensez-vous du phénomène des sosies? Selon vous, est-ce du voyeurisme dans les deux sens ou le reflet de notre société à prédominer l'apparence?
Je crois ni l'un ni l'autre. D'abord, c'est bien naturel que ça soit surprenant, des sosies. Il y a une phrase de Pascal qui est très belle qui dit que deux visages dont aucun ne fait rire en particulier font rire ensemble par leur ressemblance. Et ça, c'est une phrase géniale parce que ça renseigne, à mon avis, sur les deux raisons apparemment contradictoires pour lesquelles un sosie est si important. D'abord, la première raison, c'est que le sosie, c'est l'hypothèse d'une autre vie. C'est la possibilité d'une autre vie que la sienne. Donc c'est la possibilité de n'avoir pas la vie qu'on a. Dans le livre de Yann Moix sur Claude François, Podium, la phrase en exergue, enfin en épigraphe, c'est une phrase de Bernard Frédéric, le héros du livre. Il dit « J'ai toute la vie de Claude François devant moi ». Ce qui est magnifique. Donc c'est l'idée que il existe une autre vie que la mienne et qui pourrait être la mienne, ou peut-être existe sur Terre la vie que je n'ai pas, mais que j'ai été privé d'avoir. Enfin, elle existe quelque part. Voilà. Donc c'est cette idée-là qui est très importante. Et la deuxième idée, au contraire, nous ramène à nous-mêmes, parce que quand on regarde un sosie, on se regarde soi-même. C'est très intéressant, même quand les sosies se ressemblent pas, parce qu'on se ressemble pas forcément quand on est un sosie, c'est étonnant. Les Bogdanov sont des sosies, ils se ressemblent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment qu'on peut avoir de se regarder soi-même a quelque chose de très rassurant, parce que vous vivez dans le temps. Vous êtes temporel, de part en part. On n'est pas temporel comme on a une opinion politique, on est temporel. Donc vous n'êtes pas la même au début et à la fin de votre phrase. Vous êtes dans le temps. Et c'est très difficile d'avoir une identité, c'est-à-dire d'être stable quand on est dans le temps. Puisque l'identité, elle est toujours prise dans le temps. Elle évolue. Donc comment avoir une identité? Comment être identique? Eh bien, par le recours à un autre que soi. De sorte que le sosie, c'est pas seulement l'autre vie. Le sosie, c'est aussi celui qui nous donne un moment l'illusion qu'on a arrêté le temps et qu'on est quelqu'un.
C'est une sorte de schizophrénie maîtrisée.
C'est une sorte de recherche de l'identité qui se donnerait l'artifice d'un autre pour en venir à soi.
Alors comment expliquer le transfert que font certaines personnes sur les sosies des célébrités dont ils sont fans?
Eh bien, c'est que la célébrité a cette chose extraordinaire, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la proximité possible avec tout le monde en fait. La célébrité a ceci de... Enfin, l'idolâtrie qui va avec la célébrité, l'adoration qui va avec la célébrité, n'est plus une adoration verticale, c'est-à-dire qu'on va plus... Ça, ce n'est pas l'Olympe qu'on admire. Désormais, l'admiration prend la forme non plus de la vénération, mais de la familiarité, du tutoiement, de la possibilité d'insulter, de la possibilité de dire merde à une star. Voilà, le vrai bonheur, ça n'est pas de recueillir un autographe de Julia Roberts ou de qui on veut. Non, le vrai bonheur, c'est de pouvoir lui dire merde. C'est-à-dire que la vénération a pris la forme de la familiarité. Alors, évidemment, quand on a un sosie sous la main, on peut exercer cette familiarité à foison. Donc, c'est une des formes de vénération. On se donne l'artifice d'un intermédiaire qui n'est pas tout à fait la personne qu'on admire, mais qui lui ressemble suffisamment pour qu'on exerce sur cet intermédiaire tout ce qu'on ne peut pas faire à la personne qu'on admire. C'est une façon de faire descendre les gens de l'Olympe.
Alors, ouais, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a Charlie Chaplin qui a participé à un concours de sosie. de lui-même, et il n'a pas été élu, hein, il n'a pas fait partie des...
Oui, il est arrivé en quart de finale.
Voilà, tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors ouais. Comment l'expliquer?
C'est parce que le sosie existe séparément de l'être dont il est le sosie. Le sosie va plus loin et plus intéressant que l'être dont il est le simple sosie. Être le sosie de Chaplin est un mauvais sosie de Chaplin. Une chose est d'être soi-même, tout autre est d'être le sosie de soi-même. Et ressembler à son sosie, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'être le sosie de Chaplin d'une certaine façon que d'être Chaplin. En tout cas, rien n'est plus difficile pour Chaplin lui-même que d'être celui qui se ressemble, que d'être le sosie de lui-même. Précisément parce que, encore une fois, nous n'avons pas d'identité. Nous n'avons pas d'identité. Notre identité, elle est mobile. Elle nous échappe en permanence. Quand on regarde Chaplin, d'ailleurs, au début, à la fin d'un film, il n'a pas la même tête. On n'a pas d'identité. On est constamment changeant. Donc, un individu sera toujours éloigné de lui-même quand il essaie de se ressembler.
Ça rejoint Shakespeare, être ou ne pas être.
Non, c'est pas être ou ne pas être que ça rejoint. C'est tous les moments dans les pièces de Shakespeare où un individu est pris pour un autre. Toutes les pièces de Shakespeare qui mettent en scène le fait qu'à travers la ressemblance, on s'éprend non pas de la personne qu'on croit aimer, mais de l'autre que cette personne recouvre, toutes ces pièces-là renvoient à l'idée du sosie. Mais le champion du monde du sosie, c'est Molière. C'est dans Amphitryon. Puisque c'est Molière qui invente le nom de sosie.
C'est un esclave, sosie.
C'est le valet du roi Amphitryon. Jupiter trouve Alcmène, la femme d'Amphitryon, tout à fait à son goût. Et donc, une nuit, déguisé en Amphitryon, il s'accouple avec Alcmène. De ses noces naissent Hercule. Et Amphitryon, lui, donc le cocu, à qui sa femme ingénument avoue qu'elle a passé la nuit avec son amant, mais sauf que c'était son sosie, Jupiter est flanqué de Mercure, qui lui-même se déguise en valet d'Amphitryon, c'est-à-dire en sosie. Et la pièce commence, Mercure voit arriver sosie, lui dit « Mais qui es-tu ?» Et sosie lui dit « Je suis moi ». Il dit « Mais quelle impudence !» lui dit Mercure. « Mais pour qui te prends-tu, toi qui dis que tu es toi ?» Et sosie lui dit « Mais oui, je suis moi. » Et Mercure lui dit « Non, pas du tout, c'est moi, toi. » Moi, je suis sosie. Donc, il est le sosie de sosie, en fait. Et il y a une scène extraordinaire où Mercure casse la gueule, tape sur sosie, lui donne des coups. Des coups que sosie croit recevoir d'une certaine manière de lui-même. Et Mercure lui-même se fait passer pour le véritable sosie. C'est celui qui démontre à l'autre qu'il n'est pas lui. C'est des problèmes qui apparaîtront le jour où on fera des clones.
Oui.
Parce qu'il y a deux usages possibles du sosie. On regarde l'autre comme un autre soi-même, donc on réduit le monde à soi. Ou bien du coup, on se regarde soi-même comme la possibilité d'un autre. Comme étant soi-même un autre. Ou comme l'autre de l'autre. Et c'est merveilleux parce que dans un cas, on prend ses désirs pour des réalités. On ramène l'autre à soi. Dans l'autre, on prend la réalité pour son désir. C'est-à-dire qu'on se vit soi-même comme l'autre qu'on est aussi. Donc il y a un usage vertueux à faire de ces ressemblances, qui nous donnent un instant l'illusion du dédoublement et la nostalgie d'une unité fondamentale. Il y a les deux.
Et Guy de Maupassant aussi, hein, il n'y a pas des problèmes avec son sosie.
Il avait des problèmes avec lui-même, puisqu'il a passé son temps à mettre en scène le fait lui-même d'être ailleurs que là où il était.
Là, il voyait son sosie. Hein.
Oui, c'est ça, c'est comme De Vos, d'ailleurs, c'est la même...
Enfin, là, on va un peu loin, hein, parce que bon, moi, c'est pas mon cas, c'est un rôle. Voilà.
Alors, comment ça se passe pour vous?
Alors, comment ça se passe pour moi? Moi, voilà, je joue le rôle de Julia Roberts quand on le demande, et puis voilà, c'est sympa, c'est un rôle, comme pourrait jouer un comédien, tout simplement.
C'est chouette, ça. Et les gens viennent vous voir, vous appellent par votre nom?
Pas toujours. J'ai vécu le transfert d'amour, de haine. On m'a déjà craché dessus, ça m'est arrivé. voilà. Bon, c'est un choix. On le fait ou on le fait pas. Hein.
Mais alors moi, est-ce que vous prenez pour vous les crachats que vous recevez au nom de Julia Roberts?
C'était un peu dur, mais je l'ai pas pris pour moi. Hein. J'ai pas pris pour moi parce que j'étais en représentation et la personne qui m'a craché dessus m'a dit mais tu te prends pour qui? Alors que moi, je me prenais pour personne. Enfin, je venais juste jouer mon rôle, tout simplement. Parce que c'était un rôle.
Ah oui, donc la personne qui vous a craché dessus vous a reproché d'usurper.
Tout à fait.
D'usurper le titre de Julia Roberts.
Tout à fait. Alors, j'ai quelques collègues sosies qui m'ont dit qu'ils avaient rencontré leur double. Et certains doubles l'ont vécu comme une agression. Donc, ils n'ont pas accepté de rencontrer leur sosie.
Mais parce que personne... L'avantage des gens qui se ressemblent, c'est qu'on mesure les différences entre les êtres. Si vous avez comme entre deux personnes le socle commun d'une ressemblance de départ, sur ce socle commun, vous faites jaillir des différences. Julia Roberts est plus différente de vous et vous êtes plus différente d'elle... que vous l'êtes de mon camarade Alain, ou de toute personne dans cette pièce, à la limite même que du chat qui s'y trouve, puisqu'il n'y a aucun socle commun. On ne peut pas faire apparaître des différences entre deux êtres aussi différents que vous et Alain, par exemple. En revanche, entre vous et Julia Roberts, les différences apparaissent à son profit ou au vôtre, peu importe, c'est pas la question. Le fait est que les différences apparaissent puisque vous vous ressemblez. La différence n'est pensable que sur fond de ressemblance. Donc on peut... un sosie, c'est aussi celui dont on mesure tout ce qui en lui ne nous ressemble pas.
François, Brunel, vous, ce qui vous intéresse, en fait, ce n'est pas la similitude, mais au contraire, les différences que vous cherchez dans cette similitude.
J'ai photographié des gens qui sont des parfaits jumeaux, et ils sont identiques. C'est pas pareil. Quand ils sont trop pareils, ça, c'est plus intéressant. Alors souvent, on va reprocher à mes photos, on va dire, mais ils ne se ressemblent pas tout à fait, c'est dommage. Mais justement, ils sont pas obligés de se ressembler tout à fait. C'est le fait qu'il y a une confusion, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on ressemble à quelqu'un d'autre? C'est le nez, c'est les yeux, c'est la bouche. Mais en fait, c'est un assemblage de facteurs qui fait qu'on est comme ça ou on n'est pas comme ça. Il m'est arrivé une chose, moi, en tant que photographe, une fois, j'avais respiré beaucoup d'un gaz pour faire une photo. Enfin bref, l'histoire, je vais pas vous la raconter. Et je suis arrivé chez moi et mon visage était transformé. J'avais gonflé et quand je me suis vu dans le miroir, je me suis pas reconnu. Et ma première réflexion qui m'est venue à ce moment-là, je me suis perdu. J'ai perdu la personne que j'étais parce que j'allais devoir toute ma vie expliquer qu'avant, j'étais quelqu'un d'autre. On voit que l'apparence, quand même, c'est important.
Quelle est la première réaction lorsque un des modèles rencontre l'autre?
Au début, c'est une période d'observation et en plus une période de relaxation parce que, bon, comme ils se ressemblent un peu ou beaucoup, alors finalement, il y a un sentiment de paix. Et ça m'est arrivé à moi parce qu'on m'avait dit que j'avais quelqu'un qui me ressemblait ici, un acteur de Montréal. Et moi, je ne connaissais pas du tout cette personne-là. Et un jour, j'ai décidé de faire une photo avec lui. Et là, je vois un grand type qui est beaucoup plus grand que moi. Et sur le coup, je ne trouve pas qu'il me ressemble vraiment. J'ai l'impression de voir un total étranger. Alors, il entre au studio, on s'assoit, on discute un peu des photos. Et tout à coup, je lui dis, vous avez l'air d'une personne très gentille. Alors lui me répond de sa belle voix d'acteur, il dit « Mais vous avez l'air d'une personne gentille, vous aussi. » Et moi je réponds « Vraiment ?» Et là je me suis rendu compte après que, comme on m'avait dit qu'il me ressemblait, donc je pensais qu'il allait me taper sur les nerfs. Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce moment-là, je croyais que je tapais sur les nerfs des gens, curieusement. Et quand il est sorti du studio après la séance de photo, je me suis senti apaisé parce que j'ai vu ce que les autres voyaient en moi, probablement une personne qui avait l'air petit sourire éternel, les yeux doux, puis qui n'était pas méchant. Quoi. J'ai pu voir comment les autres me percevaient. Et ce qui est drôle, c'est comme c'est un acteur assez connu ici à Montréal, quand je vais dans un endroit public, les gens me font des sourires, les dames surtout. Une femme, même une fois, j'étais au marché, une femme se colle sur moi, elle me frotte l'épaule et dit « C'est vous qui faites souffrir deux femmes en même temps ?» Et là, j'ai dit, peut-être une, mais deux, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on est, au fond, chacun d'entre nous? C'est ça la question aussi de mon projet, je crois. C'est qui suis-je? Qui suis-je? Alors, si je vois quelqu'un qui me ressemble et qui n'est pas moi, donc, quand je me vois dans le miroir, moi, je dis, ah, mais ça, c'est François Brunel, c'est bien lui. Mais si quelqu'un d'autre ressemble à moi, à François Brunel, il se regarde dans le miroir, il s'appelle Gaston, par exemple. C'est troublant. Alors, est-ce que je suis ce que je vois dans le miroir? Est-ce que je suis ce que je suis? Ou je suis quelque chose d'autre qui est à l'intérieur et qui est invisible et qui est indescriptible? Alors, c'est ça la question de mon projet, je crois.
Je vais faire voir. Ça, c'est en 98. J'ai mis toutes les dates. Hein. Voilà, 2008. Ça évolue, vous voyez? 2011, et puis ça, ça a été tourné en Corse l'année dernière, où j'ai fait un spectacle.
Que vous êtes sosie de Michel Sardou, tout en suivant l'évolution physique de Michel Sardou. Là, on voit deux photos, une qui date de 1978, l'autre qui date de 2011.
Oui, c'est ce qui est marqué dessus, oui.
Vous avez le physique qui a évolué en même temps.
Bah oui, voilà. Mais je suis pas du tout, c'est pas pathétique, hein, parce que j'étais très heureux de faire ça, moi, vraiment. Et vous réussissez ou pas à nous, à notre petit niveau, là, bon, on essaie d'en vivre et je me plains pas, quoi.
On en vit vraiment?
Ah bah oui, écoutez, moi je veux dire que ça va. Je suis pas, non, faut pas exagérer, hein, mais c'est bien, ça va.
Je dois vous appeler Serge Cardu ou Michel Sardou?
Serge Cardu, surtout, c'est mon vrai nom, hein. Voilà, je triche pas là-dessus.
C'est pas triste d'être dans l'ombre de la star, justement, et de jamais être sous les projecteurs, hein?
Non, ben non, c'est bien d'être dans l'ombre de cette façon-là. Hein? Alors que j'étais peintre, je savais ce que c'était de prendre le métro, de me lever à 6h du matin et aller bosser. C'est ça qu'il faut voir. Hein? Alors que, bon, chanter, c'est pas facile non plus, parce qu'il y a des nuits, on dort pas.
quand vous n'avez pas dormi, puis qu'il faut, parce qu'à ce moment-là, on faisait entre 100 et 120 spectacles par an, quoi. Hein, c'était en 82, j'ai commencé vraiment à vivre de ça. Et ben, vous savez, il y a des moments où la voix, elle. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est dur, hein. Depuis 4 ans, je me suis calmé parce que j'en ai marre des voyages, des trains, des avions, des bagages à porter, enfin tout. Et puis, puis changer de lit et tout. Donc j'ai. Voilà, je décroche. Ça, c'était en Espagne, à Marbella. J'avais fait un truc. J'avais été chanté là-bas pour un truc privé, je crois. C'était les Samples Éclairs, je ne sais plus, il y a très longtemps. Ça, c'était dérangé. Oh, j'en passe, hein, parce que là, on y est demain matin.
Hein. Alors, on va vous faire chanter un petit peu.
Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente. Je pousse. Qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Voilà.
Jean-Pierre Lyoté, là, avec le syndrome de Capgras, on entre de plein pied dans le monde de l'illusion.
Ces syndromes, ce sont des délires. Hein. La personne qui en est atteinte est absolument convaincue. Mais parfois, c'est une forme un peu intermédiaire avec l'illusion quand même d'une ressemblance. Souvent, on est frappé par la ressemblance avec quelqu'un. Et j'avais été frappé par des cas de deux malades qui croyaient partout retrouver des personnes de leur connaissance, avec une certaine conviction. Mais je dis une certaine conviction, c'était plutôt une fabulation, comme une identification hyperbolique, en particulier chez des gens qui sont atteints d'un syndrome maniaque, une espèce de rapidité de pensée, et qui se saisissent à ce moment-là du détail d'une personne pour décréter qu'ils ont affaire à un sosie. Je me souviens comme ça d'une malade qui me disait que j'étais le sosie du coiffeur de son village. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai demandé à un interne du service d'aller voir le coiffeur en question. Et la ressemblance était quand même très très difficile à établir, sauf peut-être les cheveux que j'avais à l'époque un peu frisés, lui aussi. Voilà, elle s'était donc appropriée un détail de ma personne pour peut-être, face à une situation angoissante, être hospitalisé, se rassurer en faisant intervenir une personne connue d'elle.
Alors je vous repose ma question, Jean-Pierre Lyoté. Que peut dire le neuropsychiatre que vous êtes de ces sosies professionnelles ?
La personne en question a quand même des problèmes d'identité, puisqu'elle va chercher comme ça une personne de prestige, en principe, c'est ça, pour lui ressembler exactement. Cela dit, je pense que ces sujets, je ne dirais pas ces malades, n'ont aucune envie de changer. Ils ne cherchent pas de soins. Peut-être que leur entourage estime que ça va un peu loin parfois, mais ils ne cherchent pas de soins. Donc là, on est vraiment très éloigné du domaine de la pathologie. Sauf si, évidemment, la personne en vient à ne plus avoir de rôle social et s'identifie complètement à son double.
Merci à Serge Cardu, sosie de Michel Sardou, à Gabriel Mailly, sosie de Jacques Dutronc, à Michel Daniel, sosie de Julia Roberts, à Raphaël Enthoven, écrivain et philosophe. Merci également à Jean-Pierre Lyoté, neuropsychiatre spécialiste de Joseph Capgras, à Martine Tournier de Belinda Productions, à François Brunel, photographe, Elisa Berst et Corinne Barois, deux doubles photographiés par François Brunel, et à Denis Lemaine, un des nombreux sosies de Johnny Hallyday. La gueule de l'autre, réalisation Vincent Deck, attaché d'émission Christine Bernard et Alison Sinard, un documentaire d'Alain Lefkovitch pour Sur les Docs.